Vous écoutez Infusion Positive, un podcast où Estelle et Catherine diffusent des clés sur le bien-être et le bonheur. Bonne écoute! Bonjour Estelle!
Bonjour Catherine!
Et bienvenue à vous qui nous écoutez pour ce nouvel épisode d'Infusion Positive. Comme on vous l'avait nommé dans l'épisode sur les émotions, on va aborder chaque émotion avec un petit peu plus de profondeur, avec un bonus 10 minutes, pour thématiser sur chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, on aimerait aborder la peur. Comment vaincre ces peurs? Mais peut-être Estelle, tu veux peut-être nommer un petit peu dans quel cadre, parce que les peurs c'est tellement large, ça peut passer de la peur de la mort à la peur de faire une présentation, la peur de ce que je peux penser, la peur de 1150 manières d'avoir peur. Donc peut-être est-ce que tu peux recadrer un petit peu dans quelle orientation on va aborder cette infusion.
Déjà préciser qu'on parlera effectivement des peurs déjà et pas forcément de troubles anxieux. Pour moi c'est vraiment un continuum entre la peur qu'on peut avoir face à une menace réelle, et c'est une peur adaptée, normale, et jusqu'à un trouble anxieux, et il y a tout un florilège de troubles anxieux différents qu'on va pas forcément aborder aujourd'hui. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les peurs, et les peurs notamment limitantes qui vont nous bloquer, nous empêcher d'agir, ou nous empêcher de vivre certains moments, et sur lesquels on a l'impression qu'on pourrait peut-être agir, et c'est ça qu'on a envie de vous apporter aujourd'hui.
Oui, vraiment cette peur qu'on ressent et qu'on se dit « mais j'ai envie d'oser, j'ai envie d'y aller, mais je suis quand même encore bloquée en fait ».
Exact.
Donc comment est-ce que je peux vaincre cette barrière que je me crée?
C'est ça.
Sur un danger qui n'est pas forcément
réel.
Vital. Réel, en tout cas, dans la réalité. C'est ça aussi qui est intéressant quand on pense à la peur, à quel point elle est subjective. Parce qu'une même une autre personne dans exactement le même cas de figure va vivre la situation de manière tout à fait différente. Et c'est ce qui donne des fois lieu à cette invalidation de la peur. Mais bon, tu vas quand même pas avoir peur de grimper 3 étages, en fait. Pourquoi t'as peur? Enfin, il y a vraiment cette fois, c'est parfois cette incompréhension, parce qu'on a tous des réalités différentes et nos peurs, elles se construisent avec nos expériences de vie. Soit que j'ai vécu quelque chose et puis j'ai plus envie de revivre ça, parce qu'une fois quand j'étais en 3e année primaire, j'ai dû faire un exposé et puis tout le monde a rigolé. Donc ça me ramène à ça et j'ai peur de faire cette présentation demain devant un groupe de personnes, voilà, parce que ça revient par rapport à une expérience vécue. Ou des expériences qu'on a pas vécu soi, mais qu'on a été observateur et puis qu'on a peur de vivre.
Et la peur, c'est une émotion, à nouveau, qui est normale, qu'on peut ressentir face à un danger, une menace, quelle qu'elle soit, que ce soit à nouveau cet exposé ou tout à coup je traverse la route et une voiture n'a pas freiné à temps. Heureusement que j'ai peur et c'est normal. Mais ça devient plus problématique et plus gênant et limitant quand cette peur prend plus de place, et notamment ça devient de l'anxiété quand c'est une anticipation. Quand c'est la peur d'avoir peur, quand j'ai peur, j'imagine la situation. Oh, ah là, et si il m'arrive quelque chose, et si ta ta ta.
Toutes et on ces est pensées fort pour ça, hein, parce que nous on rumine en fait. Tu disais, c'est des pensées.
C'est ça, c'est les pensées. La peur, l'anxiété, c'est avant tout des pensées. La puissance de nos pensées est énorme et on voit que la majorité, la base de nos peurs est axée sur nos pensées. Donc cette petite voix que vous avez à l'intérieur qui dit « Ah, et si pendant mon exposé, quelqu'un rigole ? Et si pendant mon exposé, je commence à rougir ? Et si... » etc., etc. Toutes ces petites pensées qui commencent par « et si hein, », ce scénario que je suis en train d'imaginer, ce n'est que dans ma tête, ce n'est que un scénario catastrophe que j'imagine, mais je suis déjà en train de préparer mon corps à cette situation, alors qu'elle n'est absolument pas réelle. Mais c'est comme si je suis déjà en train d'activer, mon cerveau envoie déjà un message de protection, du coup j'ai déjà toute une physiologie comme ça qui s'active, le cœur qui bat, la transpiration, une tendance à l'action, je suis prêt à réagir. Et d'ailleurs ça me fait penser aux 3 réactions qu'on appelle face à la peur. On parle en anglais des 3 F pour « fly, freeze, fight ». Fly, c'est fuir, c'est je face à une menace, je suis prêt à fuir, j'évite. Quand on a peur de quelque chose, on préfère éviter.
Donc je suis malade le jour de la présentation.
Exactement. Ah en fait, non, ça va pas, je vais pas le faire. Ou bien au dernier moment, je dis je suis désolée, je peux pas. Ou voilà, je m'enferme aux toilettes ou je ne sais quoi. Ça c'est vraiment, c'est la branche du système nerveux autonome qu'on appelle sympathique. Je vais accélérer toute l'activation physiologique pour fuir ou pour combattre, pour faire face. Mais je ne suis pas en train de faire face de manière adéquate. Et l'autre branche qu'on appelle la branche parasympathique, qui est liée au nerf vague, il y a cette réaction qu'on appelle freeze, c'est je suis comme pétrifiée. gelée sur place, bloquée, tétanisée. Je peux pas. Alors imaginez, on est encore dans cet exposé, la personne est comme bloquée sur place. Puis ça, c'est en plus le pire scénario qu'ils imaginent, probablement, dire oh, « je peux pas, je peux plus parler, je suis bloquée, j'ai l'impression que je suis incapable d'agir ». Et ça, c'est la voie dorsale comme ça qui fait une sorte de réaction extrême, comme ça, qui bloque. Et ce que nous, on va essayer de favoriser, c'est vraiment d'activer la voie qu'on appelle parasympathique ventrale, qui va insuffler la confiance, la sécurité, qui va permettre de rassurer la personne, qui va permettre de, par des activités comme la respiration, la méditation, le rire, le sourire, toutes ces choses vont activer le nerf vague et la voie ventrale et donc physiologiquement permettre de se calmer, de faire face à une menace. Alors dit comme ça peut paraître compliqué.
Concrètement, je vis ce moment parce que il y a deux pans. Il y a la partie préparation. On peut vraiment préparer son mental en amont pour que juste parce qu'on est comme ça, on aime anticiper, etc. Mais on peut choisir d'anticiper avec des scénarios catastrophes et qui sont ensuite pas très constructifs, qui vont agrandir, faire croître cette peur. Ou alors il y a vraiment toute cette préparation mentale sur eh bien si je suis en confiance, comment peut se passer ma présentation. Et puis nous en coaching, c'est ce que je fais, j'accompagne. Puis c'est ce que tu fais, j'imagine aussi. C'est accompagner la personne aussi dans un scénario où tout se passe bien, comment ce serait, etc. Pour aussi créer cet élan là. Et de revenir sur des ressources dans le passé, des moments où ça a déjà un petit peu été dans ce sens, comment la personne avait fait. Donc on va vraiment venir préparer le mental là-dedans. Maintenant, quand je me trouve face, c'est le moment, je n'avais pas du tout prévu que je vivrais ce moment et puis j'ai peur. Comment est-ce que je peux faire alors concrètement?
Alors là, justement, c'est là où je vais activer ces ressources qui vont être propres à chacun. Pour certains, ça va être la respiration. Et on en a parlé dans un épisode. Je pense que c'est vraiment une des clés magiques, j'ai envie de dire. Alors c'est un peu gros dit comme ça, mais pourtant c'est réel. Elle est en nous. C'est un outil qui va vraiment favoriser cette détente quand on arrive à justement faire une respiration type cohérence cardiaque ou autre qui va ralentir le rythme et nous permettre tout de suite de se sentir déjà mieux. Ça peut être de la visualisation, même si je suis sur le moment, je peux encore être dans cette visualisation positive et de confiance. Maintenant, ça dépend quel est mon degré de...
Voilà.
C'est ça.
Et quand... Se reconnecter à des expériences concrètes que j'ai vécues.
Exact. Et quand j'observe que ce sont mes pensées qui sont en train de me faire aller de plus en plus mal et je suis en train d'imaginer, de me dire plein de choses, hein, si on pouvait mettre un haut-parleur sur cette petite voix, on serait choqués de voir ce qu'on peut entendre parfois. Là, c'est d'essayer de vraiment de... C'est un peu comme s'il y avait le petit ange et le petit diable, hein, comme dans les BD. Ben là, le petit diablotin qui dit plein de pensées comme ça, négatives, et d'imaginer le pire. D'essayer d'activer le petit ange. Qu'est-ce que dirait cette petite voix? Comment on pourrait se dire autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'une personne de notre entourage pourrait dire à notre place?
Aussi au niveau... là, on reste au niveau des pensées, mais aussi au niveau du corps. On peut préparer en fait son corps à ce moment-là. Un truc tout bête que j'avais vu aussi une fois en formation, c'est vraiment de se tenir bien droit, de lever les bras au ciel en signe de V comme victoire, et en fait vraiment de se sentir un peu conquérant comme ça. En fait, physiologiquement, de nouveau, le corps, il envoie des informations dans notre... ça renvoie à des émotions de force. Ça détourne un petit peu ce moment de peur, finalement. Ça prend le dessus. Et puis, ça envoie un message super positif à son cerveau, genre « il est fort !» Enfin, voilà. Mais vraiment, la physiologie, enfin, de prendre son corps comme allié à ce moment-là, plutôt que se recroqueviller, se plier, se faire tout petit. Non, au contraire, je me fais grand, j'ouvre grand les bras, on peut le faire aux toilettes, si on n'a pas envie de se mettre en plein milieu de sa salle, de son bureau. Mais vraiment, d'ouvrir ses bras grands en V de victoire, et respirer dessus, et se dire, mais je suis... ok, ça va le faire, voilà. De ce côté... c'était une piste en tout cas qui avait été évoquée. Je crois, est-ce que ça vient de la PNL, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça apporte quelque chose de super constructif à ce moment-là. Alors peut-être que ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, pour l'avoir aussi expérimenté, on sent... Enfin, il y avait d'ailleurs, j'avais vu une fois des études qui sont faites hein, sur ça. Il y a deux groupes de personnes, et puis tu as un groupe justement qui doit faire certaines postures physiques, et puis après ils ont un examen à faire. Et effectivement, le résultat montre que les personnes qui ont fait ce genre de pratique, eh ben, ils réussissent mieux, ils se sentent plus en confiance.
comme le fait de sourire, on invite des fois à sourire dans des moments plus compliqués. Ça peut activer déjà toute la physiologie associée à l'émotion de joie. Donc c'est un petit peu le même mécanisme que ce que tu cites. En tout cas, quand on a de la peur, notre besoin le plus profond, c'est un besoin de sécurité, de sentir peut-être des fois de la prévisibilité. J'ai besoin un peu de contrôler, de maîtriser. Donc déjà, de prendre conscience à nouveau, d'aller se connecter avec ce besoin profond. À nouveau, la peur dans certaines situations est tout à fait normale, adaptée, et c'est important à ce moment-là d'être connecté à cette peur, de comprendre, tiens, j'ai besoin de quoi là, j'ai besoin d'être rassuré, qu'est-ce qui me rassurait, qu'est-ce qui serait adéquat, et d'aller chercher les bonnes ressources. Puis elle devient invalidante, limitante, problématique, voire pathologique quand elle est tout le temps là et qu'elle n'est pas basée sur une menace réelle ou un danger réel, mais que, à nouveau, surtout sur mes pensées, sur des scénarios que j'imagine qui sont catastrophiques. Donc vraiment, la clé qu'on a envie de vous donner, c'est de réfléchir dans ces moments où vous avez l'impression que c'est une peur limitante et bloquante, de réfléchir déjà, de prendre conscience déjà de vos pensées. Qu'est-ce que dit ma petite voix à ce moment-là? Quelle est la part justement du petit diablotin et qu'est-ce qu'il dit? Et comment est-ce que je pourrais essayer de faire appel au petit ange et écouter plutôt cette petite voix qui pourrait insuffler plutôt la confiance, le côté positif et être dans une visualisation positive de l'événement ou de la scène ou de la chose qui me fait peur.
Il y a aussi un élément que je voulais aborder à travers ces peurs, c'est cette notion de contrôle, d'hyper-contrôle que les personnes activent, notamment quand ils ont des peurs.
On a eu un bel exemple quand il y a eu le Covid. Pour moi, c'est un bel exemple pour illustrer ces deux réactions d'hyper-contrôle et de l'autre côté d'évitement. Quand il y a eu le Covid, il y a ceux qui étaient dans l'hyper-contrôle de toutes les informations, qui allaient être connectés 24 heures sur 24, comprendre ce qui se passe, de quoi il s'agit. Et il y a ceux qui étaient au contraire dans l'évitement complet, qui ne voulaient surtout pas en entendre parler, mais comme toutes les informations de nos jours, mais je trouve que c'était tellement emblématique. Donc on est dans cet hyper-contrôle, besoin de maîtriser, de tout savoir, pour essayer de calmer la peur. Mais malheureusement, ça la renforce, parce que je crois que je maîtrise, mais la peur, elle n'est pas soignée, entre guillemets. On n'a pas considéré la peur, on a juste essayé de mettre un couvercle.
Derrière cet hyper-contrôle, c'est quoi alors le besoin ?
Vraiment le besoin de maîtriser, d'avoir justement cette prévisibilité. Quand j'ai peur, j'ai peur de tout ce qui est incertain, j'ai peur de l'incertitude, de l'imprévisibilité, de tout ce qui pourrait se passer. Donc avec l'hyper-contrôle, j'ai l'impression que je suis en train de maîtriser comme si je pouvais définir tout ce qui va se passer dans mon avenir et sans aucune mauvaise surprise. Et c'est évidemment
oui.
pas possible.
Et ce qui amène aussi à beaucoup de pessimisme, parce qu'on on imagine tous les scénarios catastrophes. Mm-hmm. Donc, quel conseil toi tu donnerais par rapport à ça aux personnes qui nous écoutent, qui ont conscience qu'elles sont vraiment dans cet hyper-contrôle et qui génèrent beaucoup de peur et que finalement ça les envahit? Comment est-ce qu'on peut contrecarrer ça?
En douceur, déjà, un peu comme quand on parlait du changement d'habitude, c'est qu'on peut pas changer ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est construit, mais en douceur de tester, de dire, tiens, si ça, je le fais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Puis mon scénario catastrophe va imaginer plein de drames, mais de oser expérimenter, puis voir que finalement, ça se passe bien. Puis de vraiment prendre conscience, tiens, j'ai pas contrôlé ça, et ça s'est bien passé. Mais ça, il faut le faire peut-être en étant accompagné, ou en tout cas en le faisant pas après pas pour...
Parce que le grand défi pour ces personnes qui ont ces caractéristiques très présentes, c'est vraiment de lâcher prise.
Ouais.
Donc on peut aussi lâcher prise à nouveau avec la méditation, on va y revenir à chaque fois, la respiration, il y a toutes ces ressources qu'on peut activer et tester, lâcher les petites choses où il y a peu d'enjeux.
C'est ça, mais vraiment petites.
Petites choses pour commencer, parce que le but c'est pas de se créer une suranxiété parce qu'on a lâché. Ça. Mais plus j'ai peur, effectivement, et plus je vais créer des processus ultra contrôlants et ça va m'empêcher de vivre tranquillement ma quiétude de vie.
Tout à fait.
Estelle, quel serait le mot de la psy pour conclure cet épisode sur la peur? Quel serait le conseil que tu donnerais alors aux personnes qui nous écoutent?
Alors avant tout, déjà, d'écouter votre émotion, et si cette peur est normale, ben écoutez-la, accueillez-la et ayez conscience de votre besoin en activant vos bonnes ressources. Et essayez, si elle devient par contre trop importante, trop envahissante, et que c'est une peur d'avoir peur, et que c'est une anxiété, alors travaillez plutôt sur ces pensées qui deviennent les barreaux de votre propre prison.
Merci Estelle pour ce conseil précieux. Restez connectés à vos émotions.
Merci Catherine, merci à vous tous.
Bonne infusion!
Et si ces épisodes vous plaisent et que vous souhaitez approfondir les thématiques que nous abordons dans nos podcasts, nous organisons régulièrement des workshops.
Et nous pouvons également en organiser sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante info@ineza.ch. On aura le plaisir de répondre à vos demandes.